Monsieur le Président, Madame, Monsieur.
Les procès du siècle.
Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSAM.
My life belonged to that struggle.
Saison 2. Féminisme, genre et minorité.
Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen.
Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits.
Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins.
Les procès du siècle, saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM.
Épisode 2. Mouvement Body Positive, une injonction qui ne dit pas son nom, avec Jennifer Padjemi, Marie de Brouwer et Judith Duportail à la modération.
Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous invite à vous installer rapidement parce que je déclare cette audience ouverte. Je me présente, moi c'est Judith Duportail. Le reste du temps, dans ma vie, je suis journaliste et podcasteuse. J'anime le podcast On peut plus rien dire et Self Care ta mère chez Binge Audio. Mais ce soir, je serai la présidente de ce procès. Le thème de ce procès numéro 2 de la saison 2 des procès du siècle, c'est donc le body positive, une injonction qui ne dit pas son nom. Le body positivisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qui est né officiellement au début des années 90. Il est attribué à deux femmes, deux Américaines, qui ont lancé une association suite au décès d'une de leurs sœurs à cause de ses troubles alimentaires. Mais en réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'avant le body positivisme, déjà, dans les années 60 à New York, était né le mouvement qu'on appelle le Fat Acceptance. C'est un mouvement qui avait déjà amorcé une transformation des consciences. Les personnes qui constituaient ce mouvement s'appelaient des fat activistes, des activistes du gras. Et ils voulaient changer la perception dont on perçoit la grosseur dans nos sociétés. D'autres vont même encore plus loin quand ils essayent de dater le début du body positivisme. Ils remontent aux années 1850 avec le mouvement victorien de réforme des robes. C'est un mouvement de femmes qui, à l'époque, militaient contre le port du corset. Alors ce soir, le thème qui va nous intéresser, la question qu'on va se poser, c'est le body positivisme. Est-ce que c'est une force de libération, d'émancipation des diktats, ou au contraire, est-ce que c'est une énième injonction, une injection supplémentaire à s'aimer quoi qu'il arrive, et une injonction hypocrite? Alors pour échanger ce soir autour de cette question, j'ai la joie de vous présenter nos deux intervenantes. La première, c'est Jennifer Padjemi. Jennifer, bonsoir. Jennifer est journaliste et écrivaine, c'est l'autrice d'un premier essai remarqué qui s'appelle « Féminisme et pop culture ». Et tu es en train de plancher, si je ne dis pas d'erreur, sur un deuxième livre sur les effets du capitalisme sur nos corps. Bonsoir.
Bonsoir.
Et notre deuxième invitée, c'est Marie de Brouwer. Marie, tu es autrice, réalisatrice et animatrice. Tu as notamment réalisé le très beau documentaire « La grosse vie de Marie » qui est disponible sur Slash. Et dans quelques mois, tu sors une BD sur la grossophobie qui promet d'être brillante et percutante, qui s'appelle « Ne jamais couler » et qui sera dispo le 18 janvier. Bienvenue.
Merci, bonsoir.
Alors, ma première question, elle s'adresse à chacune d'entre vous. Est-ce que vous vous définissez vous-même comme body positive ?
Non.
Pourquoi ?
Non, pas du tout. Bah parce que moi, je parle de grossophobie principalement, qui est la lutte contre les discriminations, la discrimination des personnes grosses au quotidien, dans la vie, tout le temps, depuis l'enfance à l'âge adulte. Alors que le body positive, il a un truc de juste dire « Oh là là, tout le monde est beau ». Et moi, clairement, je m'en fiche un peu qu'on me trouve belle. Je veux juste que quand je prends le métro, on me regarde pas bizarre, et quand je vais chez le médecin, on m'insulte pas. Et donc, je me décris pas du tout comme quelqu'un de body positive, même si je pense dans ma communication sur le corps gros et le fait que je m'affiche sur les réseaux sociaux, il y a un truc qui peut peut-être faire penser au body posy, quoi.
Jennifer ?
Alors, moi, non, parce que je ne me contorsionne pas dans tous les sens pour montrer des bouts de graisse. Je pense que finalement, être body positive, c'est difficile de s'attribuer un terme comme si c'était une étiquette. C'est un peu ce qu'on a vu ces dernières années. Mais moi, je ne me considère pas du tout comme telle. Je pense que, finalement, être dans la norme peut prendre plusieurs aspects. Et je ne pense pas avoir de difficultés, par exemple, à trouver ma taille en magasin. Et ça, c'est quand même un gros, gros sujet. Et il faut différencier, justement, la lutte contre la grossophobie avec le body positivisme, qui a pris des proportions qu'on explorera aujourd'hui, mais qui, je pense, ne représente plus du tout la variété des corps pluriels.
Ce mouvement du body positivisme, est-ce qu'il a été un peu récupéré par des influenceurs, des influenceuses ou des marques pour en faire du marketing, mais sans que politiquement on se pose les vraies questions ?
Complètement, il a été complètement récupéré. C'est vrai que d'un point de vue perso, j'ai vu le body positive comme étant un truc de ah trop chouette, il y a des meufs qui me ressemblent, c'est cool. Et puis on avance dans le temps et c'est plus du tout regarder des corps gros existent et on peut les mettre nus et on peut les mettre en valeur. C'est devenu j'ai des vergetures, il faut accepter les poils et je suis d'accord qu'il faut être contre l'injonction à la beauté chez les femmes, mais du coup ça entre guillemets encore invisibiliser les personnes grosses, qui sont les personnes qu'on voulait visibiliser à la base. Et évidemment que ça a été récupéré par les marques. Alors moi, j'ai tendance à dire que pourquoi pas. Moi, si du coup, je peux m'habiller, ça m'arrange. Mais en réalité, globalement, il y a quand même très peu de choix de fringues, par exemple. Donc, ils vont mettre une mannequin grosse ou ils vont mettre grosse, avec des énormes guillemets, parce qu'elles ne me ressemblent jamais. Elles n'ont jamais un bon bidou sur les photos. Donc oui, ça a été récupéré et ça... C'est-à-dire que moi, il n'y a pas un moment où, quand je fais une interview sur la grossophobie, on ne me pose pas la question du body posi. Et à chaque fois, je suis là, c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet de est-ce que j'accepte mon corps ou pas, en fait.
Oui, parce que ce que tu disais et qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'aimer soi-même autant qu'on veut. Si à chaque fois qu'on va chez le médecin, on est humilié, discriminé, maltraité. Si à chaque fois qu'on veut avoir un entretien d'embauche, on est discriminé. Si à chaque fois qu'on va dans la rue, on se fait insulter. J'ai beau m'aimer moi-même, ça suffit pas, quoi. Enfin,
c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une violence qui est constante. Et je pense qu'on pourra aussi en parler parce que de se montrer sur Internet quand on est une personne grosse, qu'on soit body positif ou pas. C'est-à-dire que si le compte Insta, c'est du lifestyle, des fringues, etc., on est quand même victime d'une violence et de harcèlement grossophobe immonde. Et donc, oui, la question de la beauté, elle fait partie quand même du combat de la grossophobie parce qu'il y a un moment, il faut que les gens changent leur regard sur les corps. Mais c'est encore une... C'est pas le plus important, quoi. Enfin, je sais pas s'il faut hiérarchiser l'importance des luttes, mais en tout cas, ça a réduit le débat.
Jennifer, tu es venue ce soir à ce procès avec une pièce à conviction qui est, justement, on parlait des réseaux sociaux, Instagram. Alors, pourquoi as-tu choisi Instagram comme pièce à conviction ?
Alors, plus globalement, j'ai choisi mon smartphone. Parce que je pense que c'est l'endroit en fait, qui concentre tout ce que la société peut représenter dans sa globalité. Et en fait, les réseaux sociaux ont vraiment changé notre perception justement des beautés. Ambiant, il y a une dizaine d'années, par exemple, où effectivement, c'était important de pouvoir voir des corps différents, comme des corps gros, des corps noirs, des corps qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les médias traditionnels. Et donc ça a été vraiment une porte d'entrée pour les personnes de s'emparer de ces réseaux sociaux-là et de pouvoir, devant leur miroir, sans avoir besoin d'un photographe, sans avoir besoin de la validation d'un rédac-chef ou d'une rédac-chef d'un magazine féminin. Mais c'est aussi l'endroit où on voit beaucoup d'injonctions, beaucoup de manières en fait, de devoir se présenter. Et on a l'impression parfois que c'est plus seulement une envie personnelle et un besoin vraiment qui vient de nous, mais qu'on se sent obligé finalement de se représenter d'une certaine manière. Donc petit à petit, on a commencé à voir des corps différents, dits différents, mais toujours pimpés d'une manière très esthétisante. Donc, c'est-à-dire un corps gros, mais ultra sapé, très féminin, bien maquillée, avec vraiment tous les codes normatifs de la beauté, donc les cheveux longs, une taille marquée, etc. etc. Et donc, j'ai pas du tout envie de faire le procès des réseaux sociaux, parce que je les utilise moi-même, mais je pense qu'il y a une manière, en fait, de pouvoir les utiliser sans s'enfermer dans une injonction, justement, à la beauté.
Mais vous l'avez soulevé toutes les deux tout à l'heure, même sur Instagram ou dans les espaces où on met en valeur certains corps différents, ça reste les filles grosses qu'on voit, elles ont toujours la silhouette en sablier, idéale, etc. On reste dans les mêmes canons de beauté, au final.
Il y a quand même l'idée, à chaque fois, de désirabilité et de devoir plaire, en fait. Mais plaire à qui ? Ça, c'est la question. Il y a toujours cette idée de devoir être validé, de devoir être liké. Et pour ça, plus on montre un corps qui, même s'il est soi-disant différent, mais qui rentre dans des canons de beauté, plus justement il sera visible, plus il sera montré par la plateforme. Et c'est un vrai jeu, en fait, de... les gens utilisent le réseau social au départ pour justement contrer les médias plus traditionnels, mais finalement ce réseau social-là devient aussi un média traditionnel par le choix éditorial des techniciens.
Vous pensez qu'un jour on pourra vivre dans une société où il n'y aura pas de hiérarchie entre les beautés, entre les corps ?
J'aimerais dire oui, hein. Mais en tout cas, sur vraiment ce qui me concerne, à savoir sur le corps gros, parce que je ne peux pas forcément parler du reste, mais sur le corps gros, on en est très, 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 très loin. Le corps gros, ce n'est pas seulement sur une espèce de caractère esthétique. Il y a tout ce qui est derrière, à savoir... moi, dès que je parle sur Internet, je dis « Bonjour, Internet !» Et ben là, on va tout me dire « Elle fait la promotion de l'obésité. L'obésité est une maladie. » Et en fait, on ramène forcément le corps gros à sa santé, de manière complètement hypocrite, puisque je fume depuis que j'ai 15 ans et que personne ne m'a jamais rien dit sur le fait que je fume depuis que j'ai 15 ans, alors que c'est pas bon pour la santé non plus. On est vraiment très très loin.
Ouais. J'aimerais être positive, mais je pense que non. Parce qu'en fait, il y a tellement, tellement de choses à régler. Enfin, là, on parle du corps gros, mais il y a aussi le corps noir, il y a les cheveux. Enfin, il y a tellement, en fait, de hiérarchies qui sont corporellement situées, que tant qu'on n'a pas réglé ça, c'est compliqué de dire qu'un jour, tout ira bien. Et je pense vraiment que si tout allait bien, il n'y a pas de société. Enfin, là, on rentre dans un truc philosophique. mais c'est vraiment le cœur même d'une société, c'est qu'elle soit régie avec des personnes qui ne s'aiment pas, avec des personnes qui profitent du système, avec une capitalisation, en fait, de nos êtres. Et donc, forcément, si un jour, il n'y a plus ça... on se retrouve même pas là à discuter, en fait. Et donc, je pense qu'il y a des outils, des discussions qu'on peut avoir pour améliorer les choses, mais la finalité, elle sera vraiment d'ordre à la fois personnel et de la génération future. Il faut vraiment, en fait, que les prochaines générations sortent de cette idée de corporéité, d'esthétisme, de revenir peut-être vers quelque chose de peut-être plus moral, spirituel dans l'idée.
Wow. J'aime beaucoup cette idée de revenir à quelque chose de plus spirituel. Nous allons passer à un nouveau temps de ce procès. Qu'est-ce que serait un procès sans témoignage ? Donc je vais appeler à la barre notre premier témoin. Alors le témoignage que vous allez entendre a été préparé par les participants à la commission d'enquête. C'est un atelier régulier qui est animé par Grégoire Ingold et qui est proposé au public du MUCEM tous les dimanches. Ça dure toute la journée. C'est un temps qui est pris pour mener l'enquête sur toutes les thématiques qui seront abordées dans les procès du siècle. Mais c'est aussi un exercice pour apprendre la rhétorique et les constructions argumentaires. C'est donc une parole qui vient de vous tous, de tous les publics, de personnes de tous âges et de toute formation. Voilà, la parole est à vous.
Merci. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, Mesdames les expertes, je suis une femme faible et je tiens à témoigner de manière anonyme. Ce mouvement body positive veut déconstruire l'image négative que nous pourrions avoir de nous-mêmes et que la société porte sur nous. Cependant, il porte encore un regard inquisiteur sur notre corps. Body positive, interrogeons-nous sur cet adjectif. Tout doit être positif. Aujourd'hui, à la maison, au travail, et même quand on est malade, on est positif. Qu'est-ce que ce monde qui attend de nous qu'on soit perpétuellement positif ? Comme si tout allait bien, comme si le monde allait bien. Alors non, tout ne va pas bien. Je suis négative, laissez-moi être négative. Existons sans avoir à penser constamment au corps. Prenons l'initiative, pour une fois, de ne pas s'accepter. Nous avons besoin d'aller mal parfois pour apprécier le bien-être. Et je continuerai de me lever chaque matin, de choisir mon combat, de me questionner. Je vous l'accorde, c'est désagréable. Mais il ne faut pas refouler l'inconfort, car cela peut conduire à des changements plus grands chez les individus, dans notre société. Quand on exprime librement son inconfort, au lieu de le combattre comme on le ferait d'un ennemi, on l'embrasse comme on le fait avec un allié. Alors il peut indiquer le chemin à suivre pour parvenir au changement auquel on aspire. Nos faiblesses font aussi notre humanité. Je ne me cacherai pas pour conforter votre positivité sexuelle, éducative, masculine. Je ne me tairai pas non plus pour éviter de vous renvoyer à votre propre inconfort. Positive ? Dans quelles conditions et quel est le vrai problème ? Comment cela se fait-il que je paraisse même capable de chérir cet inconfort ? La réponse tient en deux phrases. Dissimuler l'inconfort et le problème, l'exprimer et la solution. Alors arrêtez de nous enjoindre d'accepter et faisons l'effort ensemble pour mieux comprendre notre condition dans ce monde. Je vous remercie.
Merci. Un grand merci pour ce très beau témoignage qui pousse à réfléchir. Est-ce qu'on pourrait tout se revendiquer finalement body négative et dire moi ce qui m'intéresse c'est pas le corps des gens, c'est leur pensée, leur âme, aussi se dire merde quoi, il n'y a pas que l'apparence qui compte. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre du témoignage de cette jeune femme. Qu'est-ce que vous en pensez vous?
En fait, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de vouloir se trouver beau, de vouloir d'aimer la mode, d'aimer le maquillage, d'aimer les choses qui peuvent rendre belle. Mais c'est surtout de se poser la question pourquoi on le fait. Et souvent, la réponse c'est pas pour nous, c'est plutôt pour les autres. Mais effectivement, ça peut être super bien de se lever le matin et de se dire « je suis moche et c'est pas grave en fait, enfin, je vais quand même passer une bonne journée, je vais quand même voir mes amis, je vais quand même avoir une vie ». Et la question c'est comment on se décentre en fait de l'idée de se regarder dans le miroir et d'avoir même un avis. Est-ce qu'on peut essayer de ressentir nos émotions ? Qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi je ressens ça ? Et dans ce que j'ai écouté, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à nous de choisir. Et peut-être se décentrer de l'idée d'une société qui nous impose en fait, de devoir se mettre dans des cases moches, beaux, gros, minces. Fin, et finalement, essayer de comprendre nous-mêmes où on a envie de se positionner. Et si une personne a envie d'être positive pour des raisons qui la concernent, tant mieux, et d'autres raisons inverses, tant mieux aussi. Mais je pense que dans toute cette question, il faut aussi parler de positivité toxique et cette idée de toujours devoir sourire, de toujours devoir accéder en fait, à une forme de bonheur, comme si ce bonheur-là allait nous rendre heureux. Alors qu'il y a plein de manières aussi de pouvoir profiter des plaisirs de la vie. Et cette positivité toxique, c'est ça qu'il faut remettre en question. C'est pas le fait d'aimer son corps gros, d'aimer des caractéristiques physiques, mais c'est quand ça devient forcé et que ça devient presque une obligation pour survivre.
Alors, l'heure est venue de consulter notre deuxième pièce à conviction. C'est un extrait de la série Shrill.
C'est une série qui est extrêmement importante parce que c'est la première fois, l'une des premières fois, qu'on voit un personnage principal gros, qui est un peu énervant aussi parfois, et c'est bien, parce qu'une personne qui a une altérité n'a pas besoin de toujours être super, géniale, la vie est belle. Elle est agaçante, elle s'habille bien, on la voit dans des scènes de sexe. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment une agentivité où où on la voit en fait choisir, on la voit avoir un positionnement très fort.
La gentilité, juste pour expliquer, c'est une notion, arrête-moi si je dis n'importe quoi, une notion féministe pour expliquer que les femmes ne sont pas forcément en train de subir leur destin, oui. C'est la capacité qu'on a à agir sur sa vie.
Complètement, j'aurais pu aussi choisir un mot plus simple, l'autonomie, mais la gentilité, ça fait plus classe.
Ah, t'es écrivaine, toi.
Et donc voilà, j'ai choisi cette série parce que finalement on voit que la fin de la série marque aussi la fin d'une ère où on s'est intéressé au mouvement body positive, au corps gros, mais pour combien de temps ? Et ça, c'était vraiment la question de savoir est-ce que c'est juste une capitalisation des productions, des marques qui s'intéresse à un phénomène de société, mais qui va beaucoup plus loin que juste une décennie. C'est-à-dire qu'il faut l'ancrer, il faut qu'on voit plus de personnages comme ça. Et je pense vraiment que les questions de représentation sont extrêmement importantes pour et des personnes concernées, mais même des personnes pas concernées, finalement, parce qu'on voit que, et dans cet extrait, et dans toute la série, finalement, si on n'a pas vécu ça soi-même, on peut se l'imaginer, on peut aussi ressentir ce que la personne a vécu. Mais surtout, c'est une histoire mondiale. Quand elle parle de spécial cas, de sa mère, tout le monde a déjà vécu un moment marquant avec ses parents, avec sa famille, le commentaire sur le poids, le commentaire sur qu'est-ce que tu manges. Et je trouve que c'est extrêmement universel et il faut rendre ces récits plus universels.
Oui, c'est moi ce qui me brise le cœur, c'est ce qu'elle raconte sur son enfance et le bol de spécial cas. Et je pense que tu as raison, c'est très juste. On a tous traversé quelque chose d'à peu près similaire avec une humiliation d'adulte qui t'explique tout d'un coup qu'en plus les mecs t'aimeront pas. Enfin, une espèce de menace, de sentence terrifiante en plus quand t'es une petite fille, quoi. Marie, toi aussi, c'est quelque chose que tu as connu dans ton enfance ?
Complètement, bien sûr. Tout enfant gros ou grosse l'a vécu. Alors, je suppose aussi que les personnes dites normées, enfin, les personnes normées aussi ont vécu des injonctions alimentaires, etc. De toute manière, le cadre intime est super, peut être super toxique là-dessus, évidemment. Et je pense même que c'est parce que j'ai vécu des scènes comme ça, pas forcément uniquement dans ma famille, puisque j'ai eu de la chance de pas être dans une famille qui me harcèle, etc. Mais je pense que c'est cette enfance-là qui a fait que je suis une femme grosse aujourd'hui. Et on réfléchit rarement aux conséquences de la grossophobie sur le corps adulte. Et encore une fois, je rappelle que l'âge des premiers régimes, c'est 8 ans. Et l'âge des premiers commentaires négatifs chez les jeunes filles sur leur corps, c'est 12 ans et moins. Non, l'inverse, pardon. Régime, 12 ans. Premier commentaire négatif, moins de 8 ans. C'est peut-être un peu jeune pour faire des régimes. Je sais pas, moi je pense que oui. Et donc oui, j'ai évidemment vécu ce genre de scène et surtout et évidemment cette menace tu plairas pas aux garçons. C'est pas grave. Hein. Je m'en sors plutôt pas mal. Je fais des trucs au MUCEM. C'est cool. Tant pis les garçons, vous savez pas ce que vous ratez.
Est-ce qu'il faut apprendre aux parents à mener des éducations qui soient au moins pas body toxiques ?
Ah tellement. Tellement, parce que je pense que, en fait, c'est un cercle vicieux de nos parents, et moi, je vais plutôt parler aussi du rapport à la mère, mais on ramène leurs propres angoisses sur leurs enfants. Et j'ai beaucoup parlé avec des personnes grosses aussi, qui ont peur de leur grossophobie intériorisée, de la remettre sur leurs enfants, mais sauf que c'est un truc de fou. Moi, j'ai une petite nièce, et c'est insupportable. Le nombre de commentaires qu'on lui fait sur son physique alors qu'elle a 6 ans. Toujours, oh, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es jolie, qu'est-ce que t'es... Et c'est bon, stop, arrêtez de... Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il... Je sais pas comment on peut rendre un peu un truc d'institution autour de l'éducation sur le corps aux parents, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire.
Tu disais, Jennifer, que le mouvement body positive a à peu près une décennie. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire que c'est le retour de la minceur avec Kim Kardashian qui a enlevé ses implants, etc. Comment tu analyses, toi, la situation actuelle ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le retour des filles comme ça, comme, comment elle s'appelle, cette mannequin ?
Kate Moss.
Kate Moss, ouais, voilà.
je pense que c'est pas le retour, je pense que c'est jamais parti. Je trouve que ce qu'on voit avec Kim Kardashian, avec d'autres célébrités, c'est aussi un retour de finalement d'un extrémisme parce que on n'a pas arrêté justement d'être dans un progrès que ce soit en termes de féminisme au pluriel de corps de questions raciales de plein de choses qu'en fait quand on parle de backlash, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à force de dire aux gens on avance, on progresse, on va vers quelque chose de meilleur, ben, en fait, les gens, ils font, à un moment, ils font tout l'inverse et se rétractent vers quelque chose de plus conservateur parce que c'est rassurant, en fait.
Le retour de la minceur, c'est un peu un backlash contre les féminismes, une façon de dire, qu'est-ce que vous croyez, les meufs, retournez faire des régimes, restez bien à votre place.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi une manière de revenir vers quelque chose de connu, vers quelque chose de plus, plus validé collectivement, de quelque chose que le monde a toujours honoré. Et la minceur, la blanchité, la richesse est quelque chose de... Enfin, sont centraux dans notre société.
Mais Marie. Sauf que moi, je trouve ça fou, tous ces titres sur « ça y est, c'est le retour de la minceur, Kim K, elle a enlevé ses fesses ». Mais sauf que Kim K, elle était déjà mince. Elle a juste des fesses plus petites et des nichons plus petits. Mais je veux dire, tout le reste a toujours été mince. Elle a toujours été mince. La famille Kardashian n'a jamais été dans un truc même body positive. Ça marche pas, tu vois. Donc en fait, moi, quand j'ai vu tous ces les trucs sur Insta et tout autour du retour de la minceur, j'étais là. Attendez, parce que ça veut dire que j'ai loupé mon créneau. Les gros, on avait la cote. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais l'impression que ça, y avait déjà pas les gros, en fait.
Alors, j'appelle à la barre notre experte qui va nous présenter une nouvelle pièce à conviction. Amélie Lavin, bienvenue. Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et responsable du pôle corps, apparence et sexualité ici au MUCEM. On vous écoute.
Absolument. Merci Judith. Bonsoir à tous et toutes. C'est un objet de la collection du MUCEM que je vous présente ce soir. Ce maillot de bain Arena qui est rentré dans la collection en 1982 et qui a été donné par Geneviève de Fontenay. Voilà, donc tout de suite, j'entends quelques rires. Donc vous devinez que s'il a été donné par Geneviève de Fontenay, qu'on ne présente plus, qui était présidente du comité des Miss France jusqu'à il y a peu, eh bien c'est que ce petit maillot bleu marine Arena a quelque chose à voir avec nos fameuses Miss. Mais avant de revenir là-dessus, peut-être juste un petit mot de contexte en fait pour situer historiquement ce concours de Miss France et cette mode des concours de beauté. On pourrait avoir l'impression que ce sont des manifestations finalement de notre époque contemporaine qui aime particulièrement l'exhibition. Mais en fait, c'est une tradition qui est enracinée dans une histoire plutôt longue. En fait, déjà au Moyen-Âge, existait ce qu'on appelait les concours de rosières, enfin l'attribution, la désignation de la rosière. Donc c'était la jeune femme dans la communauté, dans le village, qui était choisie, à qui on offrait une couronne de roses, et qui était choisie pour incarner, alors pas tant les critères de beauté au départ que des vertus morales. Alors, ensuite, la question esthétique, en fait, hein, prend le pas ou accompagne les vertus morales. Et donc, la fête de la sardine va avoir sa reine. Alors, pour revenir à Miss France précisément, c'est intéressant de savoir que le concours est lancé en 1920. C'est un journaliste, Maurice de Valef, qui a l'idée de lancer un concours national au sortir de la Première Guerre mondiale pour élire la plus belle femme de France. Donc là, il s'agit bien d'élire la plus belle femme de France. Et son but, c'est de fédérer les Français autour d'un événement festif, après donc le deuil de la Grande Guerre, pour célébrer les beautés du pays. Et je vous cite la petite phrase de Maurice de Valef, qui est intéressante. Il dit « Nous avons montré nos poilus, désormais nous montrerons nos roses ». C'est un peu la même idée que la rose. Là, c'est pas exactement la rosière, c'est la jeune beauté fraîche. Voilà, donc ça dit déjà tout sur la question de l'exhibition. Et ce maillot, donc, vous voyez, il était porté à l'époque par toutes les candidates. Il était imposé, en fait, par le comité. C'est plus tout à fait la même chose. Aujourd'hui, il y a un petit peu de libéralisation, en fait. Les candidates choisissent leur tenue. À l'époque, le maillot est une pièce, plutôt austère. Hein. Aujourd'hui, si vous regardez les concours de Miss France, vous verrez qu'il y a plus de bikinis, qu'il y a plus de fluo, qu'il y a plus de paillettes. Là, on est encore dans une certaine forme de sobriété. Alors, donc, c'est un maillot Arena, donc marque de sport. Donc, il y a aussi cette histoire du corps compétitif. Hein, c'est les maillots des athlètes, les maillots de bain Arena. J'en profite pour signaler que c'est aussi, bien sûr, l'entrée du sponsoring. hein, parce que c'est aussi, on est dans une démarche de commercialisation. Et puis surtout, ce qui est frappant, je pense que vous voyez comme moi, quand on les voit toutes alignées les unes à côté des autres avec leurs maillots, leurs chaussures et leurs petites banderoles, c'est qu'on voit que le maillot fonctionne comme un uniforme. Hein. Alors il est effectivement défendu comme tel, avec un discours qui défend plutôt le côté démocratique, c'est-à-dire que la démocratisation de l'objet porté, le maillot de bain, permettrait de mettre toutes les concurrentes à égalité. Peut-être. On peut aussi le voir comme l'instrument d'une norme, tout simplement. Hein, elles vont avoir toutes le même vêtement, parce qu'au fond, on leur demande à toutes de répondre aux mêmes critères de beauté, aux mêmes canons. Donc ce maillot, alors je me suis interrogée tout à l'heure pour savoir si c'était une taille 34 ou une taille 36. Bon, en tout cas, c'est pas la taille moyenne lambda, c'est sûr. Voilà, il est particulièrement petit. Et cette taille, donc on a eu coutume que la mode effectivement a imposée comme une taille idéale. Effectivement, elle pose une norme, elle dit un canon. Elle dit aussi que le corps, pour être évalué, parce qu'il s'agit bien de ça, le concours, les Miss au concours vont être évaluées et mesurées, doit être dévoilé. Et donc le corps est mesuré de façon très précise. Le maillot de bain, par exemple, va pouvoir permettre de montrer la longueur des jambes, qui est un des critères de jugement pendant le concours. Et alors, bien sûr, du canon de la minceur au diktat, vous en avez parlé régulièrement au début de la soirée, il n'y a qu'un pas. Et à ce propos, je pense que ce n'est pas inintéressant de rappeler, parce qu'en fait, on a quand même coutume de dire souvent que le diktat de la minceur est une invention plutôt contemporaine. Et en fait, malheureusement, puisque vous parliez tout à l'heure du rêve peut-être d'une société qui s'émanciperait de ses injonctions et ses diktats, sans doute que le processus est long parce qu'il est ancré historiquement depuis des siècles. Et donc, ce n'est pas inintéressant que parfois, en fait, en regardant l'histoire de l'art, nous donne l'illusion que les modes au XVIe, XVIIe, XVIIIe autorisaient des corps différents, des corps plus gros. Et c'est vrai qu'on voit des corps plus gras, des corps plus amples. Néanmoins, ce que montre l'histoire culturelle, quand elle s'intéresse vraiment précisément à l'attitude des sociétés occidentales, disons européennes même, vis-à-vis des corps, montre que le contrôle du poids et le maintien de la minceur, c'est un objectif dès la Renaissance. Donc vous voyez qu'on a quand même des siècles de structures profondes à rattraper. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, donc à partir de la Renaissance, un contrôle et une mesure des corps va s'installer progressivement. Et d'abord, cette mesure, elle passe par les bijoux avant les vêtements. Avec les bagues, en fait, on mesure la manière dont le corps va enfler et c'est un signe que, médicalement, déjà, il y a un problème. Ensuite, c'est le vêtement qui va devenir un outil de mesure et progressivement un outil de contrôle par la contrainte. Vous évoquiez tout à l'heure le mouvement de libération des femmes qui veulent s'émanciper des corsets. Et effectivement, à partir de la Renaissance, au XVIe siècle, on invente ces vêtements qui vont imposer une contrainte physique sur le corps, et notamment sur les ventres. En fait, ça se passe surtout au niveau du ventre et de la poitrine, pas tellement en bas du corps. Et on invente des techniques de lassage, de ceinturage qui vont comprimer le ventre, serrer la taille qui doit être fine. Et à la fin du XVIe siècle, voilà, le corset s'invente et les femmes vont le trimballer, si je puis dire, pendant un certain temps. L'image de droite, c'est une photo du fond Souris. Et donc Souris a photographié notamment le stand de Térésina la Canadienne, dite la femme la plus grosse du monde. Et vous voyez qu'elle aussi, elle est mesurée. On mesure la longueur des jambes des Miss et on mesure le tour de bras, le tour de mollet, le tour de hanche de Térésina la Canadienne. Alors vous savez sans doute qu'on avait coutume donc d'appeler ces femmes ou ces hommes d'ailleurs, hein, il y a des personnages pour le coup féminins et masculins, des phénomènes ou des monstres de foire. Et il ne me semblait pas inintéressant, vous voyez que dans les deux cas, en fait, c'est vraiment la question de l'exhibition aussi qui est en jeu. Alors bien sûr, entre le phénomène de foire et la Miss France, le regard, le jugement social ne se situe pas au même endroit, c'est très clair. Néanmoins, il me semble intéressant de les regarder ensemble parce qu'au fond, les deux fonctionnent ensemble D'un côté, on a cette femme que la société érige en repoussoir, je mets des guillemets, érigeait en tout cas à l'époque, et on vous avait dit clairement que c'était toujours pas réglé. Et de l'autre côté, un modèle, des modèles qu'on érige en modèle, justement. Mais au fond, il me semble que c'est vraiment dans l'objectivation, et le mot d'objet ne vient pas pour rien dans ma bouche à ce moment-là, dans l'objectivation réciproque de ces corps que la société forme et formalise ses normes et ses injonctions, et que finalement, si on les retourne, on imagine une sorte de société à l'envers, vous savez, les mondes à l'envers des carnavals. Si le canon devient Thérésina et le contre-canon la Miss France, au fond, voilà, laquelle est le phénomène de foi ?
Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment extrêmement intéressant de vous écouter. Je pense qu'on ne peut pas parler de body positivisme sans parler du capitalisme et du capitalisme scopique. Le capitalisme scopique, c'est une notion qui a été développée par une sociologue qui s'appelle Eva Illouz, et elle explique que c'est tout le business qui va autour le fait de se regarder. C'est un peu le capitalisme du regard. C'est exactement ce qu'on vient de montrer là, avec les concours de beauté, etc. Ce qui était très intéressant aussi, c'était cette notion d'être une bête de foire, d'être monstrueux. Et souvent dans les mouvements queer, si je ne dis pas n'importe quoi, il y a cette revendication d'avoir été, de s'être senti comme un monstre aux yeux de la société parce qu'on est différent, parce qu'on est queer, parce qu'on est gros, parce qu'on a un corps différent, etc. Et je me demande si ça vient de là aussi, peut-être, ces mouvements queer, si vous, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bah, en tout cas, sur les questions du corps gros, y a une histoire avec aussi la communauté LGBTQIA+. Par exemple, les Bears, je ne sais pas si vous voyez ce mouvement, qui sont en gros des hommes gros, poilus, qui ont voulu, en face à l'image de l'homme homosexuel, tout musclé, lisse, sans poils, se dire « bah non, nous on est gros, on est poilus, et on est aussi homo et on a notre place ». En fait, ça a été un des premiers mouvements contemporains anti-grossophobie. Et le retour du corps monstrueux, ouais, en tout cas, je trouve que c'est bien en opposition justement au body positivisme. À toujours vouloir montrer les personnes grosses comme belles, les montrer grosses comme monstrueuses, c'est aussi changer les regards et imposer quelque chose parfois plus choquant. Voilà. Après, j'ai pas d'autres choses à dire sur la communauté LGBT.
Tu veux ajouter un truc, Jennifer ?
C'est important de montrer aussi autre chose, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a plus de représentations de personnes grosses, etc. Mais c'est toujours lissé, en fait. C'est toujours... on voit jamais, en fait, des bourrelets, des vergetures, des boutons. Enfin, et même quand on parle du corps, de manière générale, c'est ça. C'est montrez-nous de l'acné, montrez-nous des poils, montrez-nous des règles.
Et quand on nous les montre, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais genre des vergetures avec des petites paillettes dessus. Et j'étais là, bah ouais, mais non. Enfin, si du coup je dois maquiller mes vergetures, je suis pas sortie d'affaire. Je mets déjà une demi-heure à faire ça. Oh.
J'aimerais qu'on passe à la pièce à conviction suivante. C'est la tienne, Marie. C'est un extrait d'un clip.
Mon clip préféré.
D'une artiste qui s'appelle Miss Platinum.
J'ai choisi cette chanson parce que donc elle dit donne-moi de la bouffe si tu m'aimes, et comme on peut le voir, elle représente des femmes grosses en train de manger, et en train de manger tout ce qui est interdit socialement, à savoir du sucre, du gras, etc. Parce qu'il y a une tendance dans la volonté d'expliquer aux gens que les personnes grosses ne sont pas grosses parce qu'elles mangent telle ou telle chose ou parce qu'elles font pas de sport, de plus représenter en gros des personnes grosses qui mangent, et je trouve ça trop cool. Elle, en fait, elle se réapproprie tous ces codes-là. C'est-à-dire que t'as le droit d'être gros, mais si tu montres que tu fais du sport, si tu montres que tu manges quand même de la salade, si tu montres que t'es féminine mais pas trop, et que t'es pas trop extra, etc. Et elle a tout l'inverse. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle met plein de crème dans son café, elle mange des sucettes de la taille de sa tête, elle sort quand même d'une barre de chocolat. Genre, vraiment, j'étais là, mais c'est mon rêve, je veux faire ça à mon mariage. Je veux sortir d'un paquet de gâteaux. Et aussi sur tout l'aspect du féminin, très... C'est-à-dire que l'on voit toutes les meufs dans le clip, elles sont en rose, elles sont en flashy, elles sont super extra. Ça aussi, c'est se réapproprier des codes presque de bimbo. Enfin, ça me parle vachement, quoi, en tout cas.
Merci. J'ai une dernière question à vous poser à chacune avant qu'on passe la parole à la salle. Selon une étude IFOP, 46% des hommes hétéros refuseraient d'être en couple avec une femme qui serait hors des canons de beauté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces 46% d'hommes ?
Mes préférés. En tant que femme hétérosexuelle, je les côtoie énormément. Bah, déjà, ça me fait de la peine de savoir ça. Pas de la peine pour moi, parce que du coup, je ne peux pas pécho 46% de la population masculine hétéro, parce que je m'en porte très bien. Mais plus de la peine pour eux, parce que ça veut dire que... Et de la peine pour leur compagne aussi. Et en plus, 46%, je pense même que c'est plus que ça. Si on parle, par exemple, de la grosseur, je pense qu'il y a des gens qui disent « Oui, je pourrais sortir avec une femme comme ci, comme ça, mais grosse, non. » et donc, je pense que le chiffre est encore plus élevé. Ça me fait de la peine, quoi. J'aurais envie de leur dire, mais mec, si c'est ça ton... Enfin, genre, réfléchis 5 minutes. Qu'est-ce que tu es bête et quelle est triste ta vie, quoi.
Jennifer ?
C'est vrai que c'est triste, mais j'aimerais bien savoir si ce sont des hommes blancs, quel est leur métier, où ils habitent, etc. etc. Et en fait, ce genre de chiffres, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un gros paf dans la figure. Mais finalement, ça veut tout et rien dire parce que il faut tellement prendre en compte plein de choses, la question raciale, la ville, de quel milieu on vient, et la beauté ne veut pas dire la même chose, en fait, selon tout ça. Et j'ai envie de leur dire, qu'ils ont un peu de la merde dans les yeux. Et puis surtout, eux, est-ce qu'ils sont dans les canons de beauté ?
Ouais, regardez-vous, 5 minutes, là.
Sauf qu'on sait très bien qu'un homme n'a pas besoin, en fait, d'être dans un canon de beauté. Alors, tout à l'heure, on parlait...
Il y a juste sur la question de la taille, ça, pour le coup, ils prennent cher.
Ouais, mais finalement, un mec, même un mec chauve, petit, avec un bide, il aura toujours
une compagne. Il peut être président.
Voilà, et il peut être président. Voilà, c'est quand même quelque chose de fort.
Bah ouais.
C'est vrai. Merci à vous deux vraiment. On vous applaudit. Alors, la parole est à vous. Si vous avez une question pour nos invités, n'hésitez pas. Levez la main si vous voulez. Hop, alors, j'ai ici une dame.
Si. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est pour rebondir sur l'information que vous avez donnée à la fin. 46% des hommes ne pourraient être attirés apparemment par des femmes qui ne correspondent pas aux critères de beauté. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut éduquer le désir, en fait ?
Ah. My subject. Oui, il faut savoir que d'ailleurs, j'écris un documentaire sur la question. Mais pour ramener toujours à moi. Mais je pense que oui. Alors je vais encore une fois prendre mon cas personnel, puisque c'est le cas que je connais le mieux. Moi, je sais que j'avais pas de désir pour les hommes gros. En me disant, non, on va pas être deux gros déjà. En plus de ça, moi, mon corps, je le trouve moche, donc pourquoi je trouverais un autre corps gros beau ? Et puis, je me suis un peu éduquée le crâne et mon regard a complètement changé sur les corps. Et je trouve autant les hommes gros magnifiques que des hommes minces. Et donc, je pense que oui, le regard, mais ça se fait... Enfin, par exemple, la représentation dans les films, la représentation dans la pop culture en général, de montrer des gros faire l'amour, de montrer des gros être amoureux, être triste, être nul et vivre des histoires d'amour, ça montre qu'on peut en vivre et donc changer le regard. Moi, j'aurais pas eu ce regard-là sur mon propre corps et sur ma propre vie sentimentale si j'avais pas constamment été dans les films la copine de la meuf qui pécho le gars. Et sauf que moi, j'en ai marre d'être la copine de la meuf qui pêche le gars. Je vais être la meuf qui pêche le gars. Et donc, je pense que le regard, il peut, avec le temps, changer. Et je touche du bois.
Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose que tu as soulevé qui est extrêmement intéressant. C'est que ces hommes-là, ils disaient pas qu'ils n'avaient pas de désir pour les femmes hors canon de beauté, en plus.
Ils ne pourraient pas sortir avec.
Donc, il y avait le côté, ce que tu as soulevé, de dire être au bras d'une femme dans les canons de beauté, c'est un faire-valoir, quoi. C'est comme avoir une belle bagnole.
Ouais.
Et je pense que c'est ça aussi. C'est le côté se faire mousser via ça ou son partenaire, qui est encore pire. Mais enfin voilà.
Et je peux faire un mini point sur la fétichisation, parce que en réalité les corbeaux sont désirés, mais sont désirés en secret, sont désirés de manière cachée. Il y a des bons dictons du style une femme grosse c'est comme des pantoufles, on est bien dedans mais on sort pas avec. Merci. Qui construit une estime de soi solide. Et globalement, je le constate dans mon travail avec toutes les personnes grosses que je rencontre. Toutes les femmes grosses que je connais, mais 100%, ont été dans des relations où elles ont été cachées, où elles n'ont été que des objets sexuels, elles ont été fétichisées. Donc, en réalité, le désir, il est là. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de rejets. C'est un micmac entre le fétichisme et le désir, mais il n'y a pas le entre-deux de, comme d'hab, normal, quoi.
Merci, un grand merci d'avoir été avec nous.
Cette séance a été enregistrée le 21 novembre 2022. Avec la participation de Jennifer Padjemi, Marie De Brouwer, Amélie Lavin et de Judith Duportail à la modération.
C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUCEM en collaboration avec Grégoire Ingold.
À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta,
Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon.
En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle.
Réalisation, Copie Carbone.
Rendez-vous sur le site du MUCEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction.
Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.